Rêve d'enfer de Gustave Flaubert. La terre dormait d'un sommeil léthargique, point de bruit à sa surface, et l'on n'entendait que les eaux de l'océan qui se brisaient en écumant sur les rochers. La chouette faisait entendre son cri dans les cyprès, le lézard baveux se traînait sur les tombes et le vautour venait s'abattre sur les ossements pourris du champ de bataille. Une pluie lourde et abondante obscurcissait la lumière douteuse de la lune, sur laquelle roulaient encore les nuages gris qui passaient sur l'azur. Le vent de la tempête agitait les vagues et faisait trembler les feuilles de la forêt. Il sifflait dans les airs, tantôt fort, tantôt faible, comme un cri aigu domine les murmures. Et une voix sortit de la terre et dit « Fini le monde, que ce soit aujourd'hui sa dernière heure. Non, non, il faut que toutes les heures sonnent. Hâte-les, dit la première voix, extermine l'homme dans un septième chaos et ne crée pas d'autre monde. Il y en a encore un supérieur à celui-ci. « Tu veux dire plus misérable ?» répondit la voix de la terre. « Oh, fini, pour le bien de tes créatures, puisque tu as manqué jusqu'à présent toutes tes œuvres, au moins ne fais rien désormais. »« Si, si, » répondit la voix du ciel, « les autres hommes se sont plaints de leur faiblesse et de leur passion. Celui-là sera fort et sans passion. Quant à son âme, » Ici, la voix de la terre se mit à rire, d'un rire éclatant qui remplit l'abîme de son immense dédain. Le duc Arthur d'Almaroès était alchimiste, ou du moins il passait pour tel, quoique ses valets eussent remarqué qu'il travaillait rarement, que ses fourneaux étaient toujours cendres et jamais brasiers, que ses livres entr'ouverts ne changeaient jamais de feuillets. Néanmoins, il restait des jours et des nuits et des mois entiers sans sortir de son laboratoire, plongé dans de profondes méditations, comme un homme qui travaille, qui médite. On croyait qu'il cherchait l'or, l'élixir de longue vie, la pierre philosophale. C'était donc un homme bien froid au dehors, bien trompeur d'apparence. Jamais sur ses lèvres, ni un sourire de bonheur, ni un mot d'angoisse, jamais de cri à sa bouche, point de nuit fiévreuse et ardente comme en ont les hommes qui rêvent quelque chose de grand. On eût dit à le voir ainsi sérieux et froid un automate qui pensait comme un homme. Le peuple, car il faut le citer partout, lui qui est devenu maintenant le plus fort des pouvoirs et la plus sainte des choses, deux mots qui semblent incompatibles si ce n'est à Dieu, la sainteté et la puissance. Le peuple, donc, était persuadé que c'était un sorcier, un démon, Satan incarné. C'était lui qui riait le soir au détour du cimetière, qui se traînait lentement sur la falaise en poussant des cris de hibou. C'était lui que l'on voyait danser dans les champs avec les feux follets. C'était lui dont on voyait, pendant les nuits d'hiver, la figure sombre et lugubre planant sur le vieux donjon féodal, comme une vieille légende de sang sur les ruines d'une tombe. Souvent le soir, lorsque les paysans, assis devant leurs portes, se reposaient de leur journée en chantant quelques vieux chants du pays, quelques vieilles airs nationales que les vieillards avaient appris de leur grand-père et qu'ils avaient transmis à leurs enfants, qu'on leur avait appris dans leur jeunesse et que jeunes, ils avaient chanté sur le haut de la montagne, où ils menaient paître leurs chèvres, alors à cette heure de repos, où la lune commence à paraître, où la chauve-souris voltige autour du clocher de son vol inégal, où le corbeau s'abat sur la grève, au pâle rayon d'un soleil qui se meurt, à ce moment, dis-je, on voyait paraître quelquefois le duc Arthur. Et puis on se taisait quand on entendait le bruit de ses pas. Les enfants se pressaient sur leur mère et les hommes le regardaient avec étonnement. On était effrayés de ce regard de plomb, de ce froid sourire, de cette pâle figure. Et si quelqu'un effleurait ses mains, il les trouvait glaciales comme la peau d'un reptile. Il passait vite au milieu des paysans silencieux à son approche, disparaissait promptement et se perdait à la vue, rapide comme une gazelle, subtil comme un rêve fantastique, comme une ombre. Et peu à peu, le bruit de ses pas sur la poussière diminuait et aucune trace de son passage ne restait derrière lui, si ce n'est la crainte et la terreur, comme la pâleur après l'orage. Si quelqu'un eût été assez hardi pour le suivre dans sa course ailée, pour regarder où tendait cette course, il l'eût vu rentrer dans le vieux donjon en ruine, autour duquel nul n'osait approcher le soir, car on entendait des bruits étranges qui se perdaient dans les meurtrières des tours. Et la nuit, il s'y promenait régulièrement un grand fantôme noir qui étendait ses larges bras vers les nues et qui, de ses mains osseuses, faisait trembler les pierres du château avec un bruit de chaîne et le râle d'un mourant. Eh bien, cet homme qui paraissait si infernal et si terrible, qui semblait être un enfant de l'enfer, la pensée d'un démon, l'œuvre d'un alchimiste damné, lui dont les lèvres gercées semblaient ne se dilater qu'au toucher frais du sang, lui dont les dents blanches exhalaient une odeur de chair humaine, eh bien, cet être infernal, ce vampire funeste, n'était qu'un esprit pur et intact, froid et parfait, infini et régulier comme une statue de marbre qui penserait, qui agirait, qui aurait une volonté, une puissance, une âme enfin, mais dont le sang ne battrait point chaleureusement dans les veines, qui comprendrait sans sentir, qui aurait un bras sans une pensée, des yeux sans passion, un cœur sans amour. Arrière aussi tout besoin de la vie, toute réalité matérielle, tout pour la pensée, pour l'extase, mais une extase vague et indéfinie qui se baigne dans les nuages, qui se mire dans la lune et qui tient de l'instinct et de la constitution comme le parfum à la fleur. Sa tête était belle, son regard était beau, ses cheveux étaient longs et s'ondulaient merveilleusement sur ses épaules en longs flots d'azur lorsqu'il se penchait et se repliait lui-même sur son dos aux formes allongées et dont la peau argentée d'un reflet de neige était douce comme le satin, blanche comme la lune. Les autres créatures avaient eu avant lui des passions, un corps, une âme, et ils avaient agi tout pêle-mêle dans un tourbillon quelconque, se ruant les uns sur les autres, se poussant, se traînant. Il y en avait eu d'élevés, d'autres de foulés aux pieds. Tous les autres hommes, enfin, s'étaient pressés, entassés, remués dans cette immense cohue, dans ce long cri d'angoisse, dans ce prodigieux bourbier qu'on nomme la vie. Mais lui, esprit céleste, jeté sur la terre comme le dernier mot de la création, être étranger et singulier, arrivé au milieu des hommes sans être homme comme eux, ayant leur corps à volonté, leur forme, leurs paroles, leurs regards, mais d'une nature supérieure, d'un cœur plus élevé, et qui ne demandait que des passions pour se nourrir, et qui, les cherchant sur la terre d'après son instinct, n'avait trouvé que des hommes. Que venait-il donc faire ? Il était rétréci, usé, froissé par nos coutumes et par nos instincts. Aurait-il compris nos plaisirs charnels, lui qui n'avait de la chair que l'apparence, les chauds embrassements d'une femme, ses bras humides de sueur, ses larmes d'amour, sa gorge nue, tout cela l'aurait-il fait palpiter un matin, lui qui trouvait au fond de son cœur une science infinie, un monde immense? Nos pauvres voluptés, notre mesquine poésie, notre encens, toute la terre avec ses joies et ses délices. Que lui faisait tout cela, à lui qui avait quelque chose des anges? Aussi il s'ennuyait sur cette terre, mais de cet ennui qui ronge comme un cancer, qui vous brûle, qui vous déchire, et qui finit chez l'homme par le suicide. Mais lui, le suicide. Oh, que de fois on le surprit monter sur la haute falaise, regardant d'un rire amer la mort qui était là devant, lui riant en face, et le narguant avec le vide de l'espace qui se refusait à l'engloutir. Que de fois il contempla longtemps la gueule d'un pistolet, et puis, comme il le jetait avec rage, ne pouvant s'en servir, car il était condamné à vivre. Oh, que de fois il passa des nuits entières à se promener dans les bois, à entendre le bruit des flots sur la plage, à sentir l'odeur des varechs qui noircissent les rochers. Que de nuits il passa appuyé sur un roc et promenant dans l'immensité sa pensée qui volait sur les nues. Mais toute cette nature, la mer, les bois, le ciel, tout cela était petit et misérable. Les fleurs ne sentaient rien sur ses lèvres. Nue, la femme était pour lui sans beauté, le chant sans mélodie, la mer sans terreur. Il n'y avait point assez d'air pour sa poitrine, point assez de lumière pour ses yeux et d'amour pour son cœur. L'ambition, un trône, de la gloire, jamais il n'y pensa. La science, les temps passés, mais il savait l'avenir. Et dans cet avenir, il n'avait trouvé qu'une chose qui le faisait sourire de temps en temps en passant devant un cimetière. Aurait-il craint Dieu, lui qui se sentait presque son égal et qui savait qu'un jour viendrait aussi où le néant porterait ce Dieu comme ce Dieu l'emportera un jour? L'aurait-il aimé, lui qui avait passé tant de siècles à le maudire? Pauvre cœur! Comme tu souffrais, gêné, déplacé de ta sphère et rétréci dans un monde comme l'âme dans le corps. Souvent, un instinct moqueur de lui-même lui portait une coupe à ses lèvres. Le vin les effleurait sans qu'un sourire vînt les dilater. Et puis il s'apercevait qu'il avait fait quelque chose de fade et d'inutile. Il prenait une rose et la retirait bien vite comme une épine. Un jour, il voulut être musicien. Il avait une idée sublime, étrange, fantastique, que n'auraient peut-être pas comprise les hommes, mais pour laquelle se serait damné Mozart. Une idée de génie, une idée d'enfer, quelque chose qui rend malade, qui irrite et qui tue. Il commença. La foule éperdue trépignait et criait d'enthousiasme. Puis, muette et tremblante, elle se prosterna sur le pavé des dalles et écouta. Des sons purs et plaintifs s'élevaient dans la nef et se perdaient sous les voûtes. C'était sublime. Ce n'était qu'un prélude. Il voulut continuer, mais il brisa l'orgue entre ses mains. Rien pour lui désormais. Tout était vide et creux. Rien qu'un immense ennui, qu'une terrible solitude. Et puis des siècles encore à vivre, à maudire l'existence, lui qui n'avait pourtant ni besoin, ni passion, ni désir. Mais il avait le désespoir. Il se résigna. Et sa nature supérieure lui en donna les moyens. Il alla vivre seul et isolé dans un village d'Allemagne, loin du séjour des hommes qui lui étaient à charge. Un château en ruine situé sur une haute colline lui parut un séjour conforme à sa pensée, et dès le soir, il l'habita. Il vivait donc ainsi, seul, sans suite, sans équipage, presque sans valet, et renfermé en lui-même, bornant sa société à lui-même. Son nom n'en acquérait ainsi chaque jour qu'une existence de plus en plus problématique. Les gens qui le servaient ignoraient le son de sa voix et ne connaissaient de son regard qu'un œil terne et à demi fermé qui se tournait froidement sur eux en les faisant frémir. Du reste, ils étaient entièrement libres, c'est-à-dire que leur maître ne leur faisait aucun reproche, à peine s'il leur donnait des ordres. Le château qu'habitait le comte avait pris à la longue quelque chose de la tristesse de ses hôtes. Les murailles noircies, les pierres sans ciment, les ronces qui l'entouraient, cet aspect silencieux qui planait sur ses tours, tout cela avait quelque chose de féerique et d'étrange. C'était pire au-dedans, de longs corridors obscurs, des portes qui claquaient la nuit violemment et qui tremblaient dans leur châssis, des fenêtres hautes et étroites, des lambris enfumés, et puis de place en place dans les galeries, quelques ornements antiques, l'armure d'un ancien baron, le portrait en pied d'une princesse, un bois de serre, un couteau de chasse, un poignard rouillé, et souvent dans quelques recoins sans lumière, des décombres, des plâtras qui tombaient du plafond du vieux salon lorsque le vent, par quelques soirées d'hiver, s'entonnait dans les longues galeries avec plus de fureur que de coutume, avec des mugissements plus prolongés. Le concierge, c'était un vieillard aussi décrépit que le château, faisait sa tournée tous les jours dans l'après-midi. Il commençait par le grand escalier de pierre dont la rampe était ôtée depuis que le dernier possesseur l'avait vendu pour un arpent de terre. Il le montait lentement et, arrivé dans la galerie principale, il ouvrait toutes les chambres, toutes portant leurs anciens numéros, toutes vides et délabrées, après avoir eu pourtant leur destination et leur emploi. Là, c'était le vieux salon, immense appartement carré dont on distinguait encore quelques lambeaux du velours cramoisi qui, dans le dernier siècle, en avait fait le somptueux ornement, la fraîche beauté. D'abord, ce fut la salle du plaid, puis la chapelle, puis le salon. Alors, il était encombré par une centaine de bottes de foin déposées en cet endroit depuis 20 ans environ et qui se pourrissaient à la pluie qui pénétrait facilement par les carreaux, chassée par le vent du soir. Le reste du salon était occupé par des vieux fauteuils, des harnais usés, quelques selles mangées par les vers et une grande quantité de fagots et de bois secs. Le concierge ne l'ouvrait jamais, si ce n'est pour y pousser quelque chose de vieux et de cassé qu'il jetait négligemment et qui allait tomber sur un vieux tableau, sur une statue de jardin ou sur les fauteuils dépaillés. Il reprenait sa course lente et paisible au milieu du corridor et faisait retentir du bruit de ses souliers ferrés les larges dalles de pierre qui en gardaient l'empreinte. Puis il revenait sur ses pas, regardant les nids d'hirondelles, s'établissant de jour en jour dans le château comme dans leur domaine, et qui volaient et repassaient par les fenêtres du corridor, dont toutes les vitres étaient étendues par terre, cassées et pêle-mêle, avec leur encadrement en lames de plomb. De grands peupliers bordaient le château. Ils se courbaient souvent au souffle de l'océan, dont le bruit des vagues se mêlait à celui de leurs feuilles et dont l'air âpre et dur avait brûlé l'écorce. Une percée pratiquée dans le feuillage laissait voir des plus hautes fenêtres la mer qui s'étendait immense et terrible devant ce château sinistre qui n'en semblait qu'un lugubre apanage. Là, c'était le pont-levis. Maintenant, on y passe sur une terrasse. Ici, les créneaux, mais ils tremblent sous la main, et au moindre choc, les pierres tombent. Plus haut, le donjon. Jamais le concierge n'y alla, car il l'avait abandonné, ainsi que les étages supérieurs, aux chauves-souris et aux hiboux, qui voltigeaient le soir sur les toits, avec leurs cris lugubres et leurs longs battements d'ailes. Les murs du château étaient lézardés et couverts de mousse. Il y avait à leur contact quelque chose d'humide et de gras qui pressait sur la poitrine et qui faisait frissonner. On eût dit la trace gluante d'un reptile. C'était là qu'il vivait. Il aimait les longues voûtes prolongées où l'on n'entendait que les oiseaux de nuit et le vent de la mer. Il aimait ces débris soutenus par le lierre, ces sombres corridors et toute cette apparence de mort et de ruine. Lui qui était tombé de si haut pour descendre si bas, il aimait quelque chose de tomber aussi. lui qui était désillusionné. Il voulait des ruines. Il avait trouvé le néant dans l'éternité. Il voulait la destruction dans le temps. Il était seul au milieu des hommes. Il voulut s'en écarter tout à fait et vivre au moins de cette vie qui pouvait ressembler à ce qu'il rêvait, à ce qu'il aurait dû être. Le duc Arthur était assis dans un large fauteuil en maroquin noir, le coude appuyé sur sa table, la tête dans ses mains. La chambre qu'il habitait était grande et spacieuse, son plafond noirci par la fumée du charbon. Quant au lambris, il s'était caché par une immense quantité de pots de terre, d'alambics, de vases, d'équerres et d'instruments rangés sur des tablettes. Dans un coin était le fourneau avec le creuset pour les magiques opérations, puis çà et là, sur des cendres encore chaudes, quelques livres entr'ouverts, dont quelques feuillets étaient arrachés à moitié et qui semblaient avoir été touchés par une main fiévreuse et brûlante, parcourue avec un regard avide et qui n'y avait rien lu. Aucune lumière n'éclairait l'appartement et quelques charbons qui se mouraient dans le fourneau jetaient seuls quelques lueurs au plafond en décrivant un cercle lumineux et vacillant. L'alchimiste restait depuis longtemps dans son immobile position. Enfin, il se leva, alla vers son creuset et le considéra quelque temps. La lueur rougeâtre des charbons illumina tout d'un coup son visage en le colorant d'un éclat fantastique. C'était bien là un de ces fronts pâles d'alchimiste d'enfer, ses yeux creux et rougis, sa peau blanche et tirée, ses mains maigres et allongées. Tout cela indiquait bien les nuits sans sommeil, les rêves brûlants, les pensées du génie. Et vous croyez que ce sourire d'amertume est un sourire de vanité? Vous croyez que ses joues creuses se sont amaigries sur les livres, que son teint s'est blanchi à la chaleur du charbon, et que celui-là maintenant qui pleurerait de rage si c'était un jeune homme cherche un nom, une immortalité? Vous croyez que ces livres jetés avec colère, ces feuillets déchirés, et que cette main qui se crispe et qui se déchire, vous croyez qu'il se désespère ainsi pour n'avoir trouvé une parcelle d'or, un poison qui fait vivre? Il allait retourner à sa place quand il aperçut sur la muraille noircie des lignes brillantes qui se dessinaient fortement et qui formèrent bientôt un monstre hideux et singulier, semblable à ces animaux que nous voyons sur le portique de nos cathédrales. Affamé, les flancs creux, avec une tête de chien, des mamelles qui pendent jusqu'à terre, un poil rouge, des yeux qui flamboient et des ergots de coq. Il se détacha de la muraille tout à coup et vint sauter sur le fourneau. On entendit le bruit de ses pattes grêles et fines sur les pavés du creuset. « Que me veux-tu » dit-il à Arthur. « Moi ? Rien. » Mais n'es-tu point l'esprit damné qui perd les hommes et qui torture leur âme? Eh bien oui, repartit le monstre avec un cri de joie. Oui, je suis Satan. Que me veux-tu? Que viens-tu faire ici? T'aider. Et à quoi? À trouver ce que tu cherches, l'or, l'élixir. Vraiment, oui, tu n'essaies donc pas que je peux vivre dans des mondes, qu'une pensée de ma tête peut faire rouler l'or à mes pieds. Non, Satan, si tu n'as de pouvoir que sur cela, quitte-moi, fuis, car tu ne peux me servir. Non, non, je resterai, dit Satan avec un singulier sourire, je resterai. La vanité est ma fille aînée, elle me donne les armes de tous ceux qui la prennent. Pensa-t-il en lui-même, j'aurai son âme. En ce moment, les charbons qui s'éteignaient jetèrent encore quelques nappes de lumière qui passèrent sur la figure d'Arthur. Elle apparut à Satan plus belle et plus terrible que celle des damnés, et même des plus beaux. Tiens, sortons d'ici, lui dit Arthur. Le vent agite les arbres, la mer gronde, et le rivage est dévasté. Viens, nous parlerons mieux de l'éternité et du néant au bruit de la tempête, devant la colère de l'océan. Ils sortirent. Le chemin qui conduisait au rivage était pierreux et ombragé par les grands arbres noirs qui entouraient le château. Il faisait froid. La terre était sèche et dure. Il faisait sombre. Pas une étoile au ciel, pas un rayon de la lune. Arthur marchait, la tête nue et le visage découvert. Il allait lentement et prenait plaisir à se sentir le visage effleuré par sa chevelure bleue et soyeuse. Il aimait le fracas du vent et le bruit sinistre des arbres qui se penchaient avec violence. Satan était derrière. Il sautillait légèrement sur les pierres, sa tête était baissée et il hurlait plaintivement. Enfin, ils arrivèrent à la plage. Le sable en était frais, mouillé, couvert de coquilles et de varechs, qui roulaient vers la mer avec les galets entraînés par le reflux. Ils s'arrêtèrent tous les deux. Arthur riait sauvagement au bruit des flots. « Voici ce que j'aime, dit-il, ou plutôt ce que je hais le moins. Mais cette colère n'est pas assez brutale, assez divine. Pourquoi le flot s'arrête-t-il et cesse-t-il de monter ? Ah, si la mer s'étendait au-delà du rivage et des rochers, comme elle irait loin, comme elle courrait, comme elle bondirait, ce serait plaisir de la voir, mais cela... Tu veux donc la mort, dit Satan, la mort dans tout ? C'est le néant que j'implore. Et pourquoi ? Tu crois donc que rien ne subsiste après le corps ? Que l'œil fermé ne voit plus et que la tête froide et pâle n'a point de pensée ? Oui, je crois cela, pour moi du moins. Et que veux-tu, enfin ? Que désires-tu ? Le bonheur. Le bonheur ? Y penses-tu ? Le bonheur. Tu l'auras dans la science, tu l'auras dans la gloire, tu l'auras dans l'amour. Oh, nulle part. Je l'ai cherché longtemps, je ne l'ai jamais trouvé. Cette science était trop bornée, cette gloire trop étroite, cet amour trop mesquin. Tu te crois donc supérieur aux hommes ? Tu crois que ton âme... Oh, mon âme ! Mon âme ! Tu n'en as donc pas ? Tu ne crois à rien ? Pas même à Dieu ? Oh, tu succomberas, homme faible et vaniteux. Tu succomberas, car tu as refusé mes offres. Tu succomberas comme le premier homme. Son regard était fier, comme il était insolent et fort de son bonheur. Lorsque, se promenant dans l'Éden, il contemplait d'un œil béant et surpris ma défaite et mes larmes. Et lui aussi, je le vis succomber. Je le vis ramper à mes pieds. Je le vis pleurer comme moi. Maudire et blasphémer comme moi. Nos cris de désespoir se mêlèrent ensemble et nous fûmes dès lors des compagnons de torture et de supplice. Ah oui, tu tomberas comme lui, tu aimeras quelque chose. Et tu me prends donc pour un homme, Satan, pour un de ces êtres communs et vulgaires qui croupissent sur ce monde où un vent de malheur m'a jeté dans sa démence et où je me meurs, faute d'air à respirer, faute de choses à sentir, à comprendre et à aimer. Tu crois que cette bouche mange, que ces dents broient, que je suis asservie à la vie comme un visage dans un masque? Si je découvrais cette peau qui me recouvre, tu verrais que moi aussi, Satan, je suis un de ces êtres damnés comme toi, que je suis ton égal. Et peut-être ton maître. Satan, peux-tu arrêter une vague ? Peux-tu pétrir une pierre entre tes mains ? Oui. Satan, si je voulais, je te broierais aussi entre mes mains. Satan, qu'as-tu qui te rende supérieur à tout ? Qu'as-tu ? Est-ce ton corps ? Mets ta tête au niveau de mon genou et de mon pied, je l'écraserai sur le sol. Qu'as-tu qui fasse ta gloire et ton orgueil ? L'orgueil, cette essence des esprits supérieurs. Qu'as-tu ? Réponds. Mon âme. Et combien de minutes dans l'éternité peux-tu compter où cette âme t'ait donné le bonheur ? Cependant, quand je vois les âmes des hommes souffrir comme la mienne, c'est alors une consolation pour mes douleurs et un bonheur pour mon désespoir. Mais toi, qu'as-tu donc de si divin? Est-ce ton âme? Non, c'est parce que je n'en ai pas. Pas d'âme? Et quoi, c'est donc un automate vivifié par un éclair de génie? Le génie? Oh, le génie! Dérision et pitié! À moi le génie? Oh! Pas d'âme? Et qui te l'a dit? Qui me l'a dit? Je l'ai deviné. Écoute, et tu verras. Lorsque je vins sur cette terre, il faisait nuit. Une nuit comme celle-ci, froide et terrible. Je me souviens d'avoir été apporté par les vagues sur le rivage. Je me suis levé et j'ai marché. Je me sentais heureux alors, la poitrine libre. J'avais au fond de moi quelque chose de pur et d'intact qui me faisait rêver et songer à des idées confuses, vagues, indéterminées. J'avais comme un ressouvenir lointain d'une autre position, d'un état plus tranquille et plus doux. Il me semblait, lorsque je fermais les yeux et que j'écoutais la mer, retourner vers ces régions supérieures où tout était poésie, silence et amour. Et je crus avoir continuellement dormi. Ce sommeil était lourd et stupide, mais qu'il était doux et profond. En effet, je me souviens qu'il fut un instant où tout passait derrière moi et s'évaporait comme un songe. Je revins d'un état d'ivresse et de bonheur pour la vie et pour l'ennui. Peu à peu, ces rêves que je croyais retrouver sur la terre disparurent comme ce songe. Ce cœur se rétrécit et la nature me parut avortée, usée, vieillie, comme un enfant contrefait et bossu qui porte les rides du vieillard. Je tâchais d'imiter les hommes, d'avoir leur passion, leur intérêt, d'agir comme eux. Ce fut en vain. C'est comme l'aigle qui veut se blottir dans le nid du pivert. Alors, tout s'assombrit à ma vue. Tout ne fut plus qu'un long voile noir. L'existence, une longue agonie. Et la terre, un sépulcre où l'on enterrait tout vif. Et puis, quand après bien des siècles, bien des âges, quand après avoir vu passer devant moi des races d'hommes et des empires, je ne sentis rien palpiter en moi, quand tout fut mort et paralysé à mon esprit, je me dis « Insensé, qui veut le bonheur et n'a point d'âme ? Insensé qui a l'esprit trop haut, le cœur trop élevé, qui comprend ton néant, qui comprend tout, qui n'aime rien, qui croit que le corps rend heureux et que la matière donne le bonheur. Cet esprit, il est vrai, était élevé, ce corps était beau, cette matière était sublime, mais pas d'âme, pas de croyance, pas d'espoir. Et tu te plains, lui dit Satan, en traînant ses mamelles sur le sable, et s'étendant de toute sa longueur. « Tu te plains? Heureux! Bénis le ciel, au contraire! Tu mourras! Tu ne désires rien, Arthur! Tu n'aimes rien! Tu vis heureux, car tu ressembles à la pierre, tu ressembles au néant! Et de quoi te plains-tu? Qui te chagrine? Qui t'accable? Je m'ennuie. Ton corps pourtant ne peut-il point te procurer les plaisirs des hommes? Les voluptés humaines, n'est-ce pas? Leurs grands baisers, leurs tièdes étreintes? Oh, je n'en ai jamais goûté. Je les dédaigne et les méprise. Mais une femme, ah, je l'étoufferai dans mes bras. Je la broierai de mes baisers. Je la tuerai de mon haleine. « Ah, je n'ai rien, tu as raison, je ne veux rien, je n'aime rien, je ne désire rien. Et toi, Satan, tu voudrais mon corps, n'est-ce pas ?»« Un corps ? Ah oui, quelque chose de palpable, qui sente, qui se voit, car je n'ai qu'une forme, un souffle, une apparence. Ah, si j'étais un homme, si j'avais sa large poitrine et ses fortes cuisses, aussi je l'envie, je le hais, J'en suis jaloux. Oh, mais je n'ai que l'âme, l'âme souffle brûlant et stérile qui se dévore et se déchire lui-même. L'âme. Mais je ne peux rien. Je ne fais qu'effleurer les baisers, sentir, voir, et je ne peux pas toucher. Je ne peux pas prendre. Je n'ai rien, rien. Je n'ai que l'âme. Oh, que de fois je me suis traînée sur les cadavres de jeunes filles encore tièdes et chauds. Que de fois je m'en suis retournée désespérée, blasphémant. Que ne suis-je la brute, l'animal, le reptile? Au moins il a ses joies, son bonheur, sa famille. Ses désirs sont accomplis, ses passions sont calmées. Tu veux une âme, Arthur? Une âme? Mais y songes-tu bien? Veux-tu être comme les hommes? Veux-tu pleurer pour la mort d'une femme, pour une fortune perdue? Veux-tu maigrir de désespoir, tomber des illusions à la réalité? Une âme? Mais veux-tu les cris de désespoir stupide, la folie, l'idiotisme? Une âme. Tu veux donc croire? Tu t'abaisserais jusqu'à l'espoir? Une âme. Tu veux donc être un homme, un peu plus qu'un arbre, un peu moins qu'un chien? Eh bien non, dit Arthur en s'avançant dans la mer. Non, je ne veux rien. Puis il se tut, et Satan le vit bientôt courir sur les flots. Sa course était légère et rapide, et les vagues scintillaient sous ses pas. Oh, dit Satan dans sa haine jalouse, heureux, heureux. Tu as l'ennui sur la terre, mais tu dormiras plus tard. Et moi j'aurai le désespoir dans l'éternité quand je contemplerai ton cadavre. Mon cadavre, dit Arthur, qui t'a dit que je mourrai? Ne te l'ai-je pas dit? Je n'espère rien, pas même la mort. Les moyens les plus terribles. Essaie, dit Arthur, qui s'était arrêté un instant sur la vague, qui le ballottait doucement, comme s'il se fût tenu debout sur une planche. Satan se tut longtemps et pensa à l'alchimiste. « Je l'ai trompé, se dit-il. Il ne croit pas à son âme. Ah, tu aimeras une femme. Mais à celle-là, je lui donnerai tant de grâce, tant de beauté, tant d'amour, qu'il l'aimera, car c'est un homme malgré son orgueil et sa science. Écoute, Arthur, lui dit-il, demain tu verras une fille de tes montagnes, tu l'aimeras. Arthur se mit à rire. Pauvre sot, lui dit-il, je veux bien essayer, ou plutôt essaie de me tuer si tu l'oses. Non, dit Satan, je n'ai de pouvoir que sur les âmes. Et il le quitta. Arthur était resté sur les rochers, et quand la lune commença à paraître, il ouvrit ses immenses ailes vertes, déploya son corps blanc comme la neige, et s'envola vers les nues. Thank you.